comment allez-vous? La semaine dernière, j'avais acheté une citrouille pour la transformer en lanterne d'Halloween. C'est super joli, ces lumières oranges devant les maisons. J'avais également acheté des bonbons pour les distribuer aux enfants le soir d'Halloween. Vous l'avez compris, j'aime cette fête, comme tout ce qui rompt la routine et qui apporte de la magie. Et enfin, dimanche dernier, comme tous les dimanches, je suis partie dans l'après-midi pour la maison de la radio et de la musique, en laissant maison vide. Voici le mot que j'ai trouvé devant ma porte en rentrant de l'émission. Donc je rappelle que nous étions le 31 octobre au soir. Madame, vous avez fait croire que vous êtes d'accord pour Halloween en posant une citrouille sur votre fenêtre. On est venus tous vous sonner et vous n'avez même pas ouvert. Alors vous mentez, E.T. Vous vous moquez des enfants et de Halloween. On a mis de la mousse à raser dans votre boîte aux lettres et du papier de cabinet tout autour de votre porte que tout le monde voit que vous n'avez pas voulu ouvrir. On n'est pas content. La prochaine fois, on vous fera péter la citrouille. Je ne sais pas si cette dernière menace est à prendre au sens propre ou au sens figuré. Cela est dit, ils ont raison, ces enfants, je n'ai pas ouvert, puisque je n'étais pas là. Et ma citrouille, même éteinte, laissait croire que j'avais des bonbons à leur donner. D'ailleurs, j'en avais. J'ai juste oublié que je ne serais pas là. Peut-être aurais-je dû, dans ce cas, retirer ma citrouille. Ils étaient équipés en matériel de contestation, comme quoi ils ont de la défense. Et ce mot m'a bien fait rire, et m'a bien rassurée aussi. Les écrans ne les ont pas complètement ramollis, et ils savent toujours écrire, le message était clair.
Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 8 ans, et je voudrais savoir comment marche un écran tactile. Merci, au revoir.
Bonsoir Valentin, merci. Alors, Michel Baudouin-Lafont, vous avez choisi cette question de Valentin. C'est courageux, à la radio, sans dessin, en 3 minutes, comment marche un écran tactile?
Un écran tactile, ça fonctionne avec une matrice de fils conducteurs, donc des fils qui sont verticaux, d'autres qui sont horizontaux. Ils sont sur l'écran, mais ils sont tellement fins qu'on ne les voit pas. Et on fait passer un courant successivement dans chaque fil verticale, horizontale, ce qui fait qu'à chaque point de cette grille, on va pouvoir mesurer ce qu'on appelle la capacité. Donc capacité, c'est un concept en électricité qu'on apprend au collège. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on approche un objet conducteur, donc le doigt conduit l'électricité, mais ça marcherait avec une fourchette, etc. Lorsqu'on approche un objet conducteur, ça change la capacité à proximité. Et donc, en mesurant comme ça la capacité de chacun des points, on se forge en quelque sorte une image de la proximité, en général, du doigt. Après, il y a tout un traitement informatique pour différencier justement si c'est bien un doigt et si c'est pas un objet pointu ou si on met toute la main à plat, en particulier si je mets le téléphone contre ma joue, etc. Alors ça, c'est la technologie dite capacitive qui est aujourd'hui celle qui est la plus utilisée sur tous les smartphones, toutes les tablettes, etc. Elle est très précise. Et en fait, elle n'a pas besoin de contact. Et en fait, si vous regardez sur votre smartphone, vous pouvez approcher votre doigt tout près de l'écran.
Sans toucher.
Et il va détecter que vous avez touché alors que vous n'avez pas touché. Alors ça peut être un avantage, c'est un inconvénient aussi parfois. Ce qui est un inconvénient, on le sait tous sur ces smartphones, c'est que si on a des gants, par exemple, ça ne marche plus.
Eh ben non.
Bah oui, parce que le gant, il est isolant. Alors il y a une autre technique qui est plus ancienne, qui est la technique résistive. Donc c'est le même principe de la grille de fil, mais là on mesure le changement de résistance lorsqu'on va physiquement appuyer à l'intersection de ces fils et établir un contact. Donc ça nécessite un contact. L'inconvénient c'est que c'est moins précis et c'est pour ça que ça a été abandonné au profit de la technologie capacitive.
Je vous ai dit que Michel Baudouin-Lafont était professeur d'informatique à l'université Paris-Sud, je ne sais plus. Et je suis sûre de ne pas vous avoir dit qu'il avait fondé l'association francophone de l'interaction homme. Machine. Vous connaissez le principe des petits bateaux, vous nous posez des questions, nous trouvons quelqu'un pour vous répondre.
Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 13 ans et je voudrais savoir si la pomme vient d'Europe ou d'ailleurs.
Bonsoir Sophia, c'est Sylvie Brunel, auteure de Croquer la pomme chez Jean-Claude Lattès. Sylvie Brunel, écrivain, géographe, professeur à Paris-Sorbonne, qui va te répondre.
Bonsoir Sophia, la pomme vient-elle d'Europe? En réalité, toutes les belles pommes, celles qu'on trouve dans les étals, sur les marchés, toutes les belles pommes viennent d'un unique endroit au monde, qui sont les montagnes célestes, à la limite de la Chine et du Kazakhstan. Non. D'ailleurs, Alma-Ata, l'ancienne capitale du Kazakhstan, veut dire « grand-père des pommes ». Alors, ces pommiers du Kazakhstan, ce sont des pommiers magnifiques, des pommiers qui peuvent atteindre la taille d'arbres tropicaux. Et ils existent depuis le temps des dinosaures. Et comme les ours du Kazakhstan, les ours des montagnes célestes, avant d'entrer en hibernation, croquaient les meilleures pommes, eh bien ce sont les pépins de ces pommes du Kazakhstan qui ont été sélectionnés pendant des millions d'années et qui ont donné les pommes d'aujourd'hui. Il a fallu décoder le génome de la pomme en 2010 pour réaliser que le Malus domestica, le pommier domestique du monde, était venu des montagnes célestes. Comment ? Par la route de la soie. Les caravaniers qui venaient de Chine faisaient escale au pied des montagnes de la soie et ils remplissaient les, comment on pourrait dire, leurs bagages de pommes séchées, de pommes à cidre, et ils les ont apportés en Europe. Et puis ensuite, eh bien, ces pommiers, ils sont franchis l'Atlantique dans le ventre des caravelles pour arriver en Amérique du Nord. Donc, la pomme, c'est la ceinture tempérée du globe, hein, parce qu'elle ne peut pas pousser dans le monde tropical, mais toutes les pommes, initialement, toutes les pommes que nous consommons viennent d'Asie.
Et pas de Normandie, ni du Limousin, comme on pourrait le croire.
Ben le Limousin, les conditions du Limousin sont assez proches de celles des montagnes célestes, d'où la fameuse pomme d'or du Limousin.
D'accord, mais ça c'est incroyable cette histoire d'ours. Quand vous dites pomme à cidre, Sylvie Brunel, vous ne dites pas pomme acide. Vous dites pomme à cidre avec un R.
Oui, pomme à cidre, ce sont les pommes qui permettent de faire cette boisson qui a été pendant très longtemps la boisson miracle. Vous savez, au 19e siècle, on en consommait 40 litres par an et par personne. Ce sont les marins qui ont emporté du cidre, par exemple en Normandie, en Bretagne, en Angleterre. Pourquoi ? Parce que le cidre est une boisson très nutritive et ça se conserve mieux que la pomme. Les cidres doux, ils titrent très peu en alcool, 2 à 4 degrés, ce sont des boissons extrêmement revigorantes, extrêmement caloriques, qui sont bonnes pour la santé. Tout comme d'ailleurs le vinaigre de cidre. Mais une fois qu'une pomme est tombée de l'arbre, elle ne peut donner que du cidre.
D'accord, donc une pomme à cidre n'est pas bonne à croquer.
En général, ce ne sont pas les mêmes pommes parce qu'il y a des cidres, des crus, des millésimes, comme dans les vins. Donc on va choisir des bonnes pommes à cidre.
Merci Sylvie Brunel. C'est pour ça que j'aime pas boire le cidre, moi, dans des bols, mais dans des verres pour qu'on le voit, parce que c'est une jolie boisson. Le dernier livre de Sylvie Brunel s'appelle « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ?» Il est sorti en format poche. Pour finir avec la pomme, qui est donc été connue pour ses vertus thérapeutiques, c'est la pomme qui a donné le mot « pommade ».
Cet homme est là qui me regarde, je m'y accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux. Il prend cela pour un aveu, mes yeux sont noirs, les siens sont bleus. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme est là qui me sourit, il me parle et j'en suis ravie. Je suis le dessin de sa bouche, légèrement sa main me touche. Ce soir je ne suis pas farouche, prise au piège comme une mouche. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Cet homme est là qui prend mon bras, je le suis, je ne sais pourquoi. Nous sommes un peu trop intimes, je vais encore être victime d'une aventure bellissime, cette rencontre est rarissime. Oh, 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 quelle histoire! Il va croire que je le veux. Faire si je peux. Cet homme. comme l'âme des habits. Ce soir mon corps sent la vanille. Tout simplement il a dit viens et vainement je me retiens. Il fait tout cela pour mon bien. Son désir a tissé les liens. Oh 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 quelle histoire. Il va croire que je le veux. Oh 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 comment faire. M'en défaire si je peux. Cet homme est là à mon réveil. Dehors il fait déjà soleil. Nous reprenons notre entretien. Ce n'est pas un théoricien. Quel est son nom? Je n'en sais rien. Mais je crois qu'il est brésilien. Oh, 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 quelle histoire. Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire. M'en défaire si je peux.
Vous aviez reconnu la voix de Jeanne Moreau. Quelle histoire! Cet homme va croire que je le veux. Comment faire? M'en défaire si je peux. Bon courage.
Les petits bateaux sur France Inter.
Stephen Clark, nous l'adorons au petit bateau. Je n'arrive jamais à prononcer son nom cependant.
Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 10 ans. Je voudrais savoir si c'est vrai que les Français sont grognons. Merci, au revoir.
Lola, nous proposons ta question à un écrivain britannique vivant à Paris, Stephen Clark. Partagez-vous son opinion? C'est même pas une opinion, c'est une question d'ailleurs.
Oui, bonsoir Lola. Je pense que oui, chaque nation doit avoir son sport préféré. Pour nous, c'est le foot. En France, c'est râler. C'est notre sport national.
Vous râlez tout le temps. Comment vous dites ça? C'est vrai?
Ah oui, oui, vous râlez. Mais parfois, je trouve que c'est assez avantageux. Par exemple, le gouvernement annonce « Ah, on va changer ça, vous allez manifester, vous allez dans la rue, vous faites des grèves », et le gouvernement dit « Ah bah finalement, on va pas le faire ». Ça peut servir à garder votre mode de vie, votre niveau de vie. Nous, on a perdu cette habitude en Angleterre de manifester, de se plaindre assez fortement pour que le gouvernement écoute quand il faut vraiment. Peut-être qu'en Angleterre, on râle pas assez. Mais en France, on râle tout le temps. Mais je trouve que, en fait, parfois, vous râlez pas pour rien. Mais si vous allez en Angleterre, vous comparez. J'espère que ça ne vous arrive pas. Mais si vous allez en Angleterre, vous allez à l'hôpital ou chez le médecin, notre système de santé par rapport à ici, notre système de santé est en faillite complète.
Ah oui.
Vous dites, ma mère a eu des problèmes de dos et elle a eu un kiné. Mais on lui a dit, oui, dans 3 mois, vous avez 2 séances. De kiné. En France, on y va tout de suite au kiné avec 10 séances remboursées. Donc, parfois, vous râlez, pas pour rien, mais par rapport à nous, les Anglais, vous avez de la chance. Et aussi, je dirais, non seulement à cause de votre cuisine et votre beau temps, en plus, mais un sujet que j'entends beaucoup, c'est les Français qui râlent à cause de la mondialisation. Nous, on appelle ça la globalisation, mais les Français refusent même d'utiliser le nom anglais, même si globalisation, ça marcherait très bien. Vous dites, ah oui, vous les Anglais, vous mondialisez tout, vous envahissez notre culture, mais franchement, si vous allez beaucoup à l'étranger, partout, vous voyez des marques, des enseignes françaises. Vous voyez, en Europe de l'Est, par exemple, les banques, les téléphones, les supermarchés sont en français. Même aux États-Unis, j'ai été une fois sur un train entre New York et Washington et j'ai regardé le locomotive et je me dis, mais je reconnais. Et j'ai regardé de près et c'était fabriqué en France. Même les Américains, ils ont des trains français. Et New York est rempli de boutiques de parfums et de fringues français. La France envahit le monde. Et encore, vous râlez que c'est nous qui changeons votre culture. Donc, parfois, vous râlez un peu trop, mais je pense que, puisque c'est un sport, ça veut dire que ça vous amuse, mais aussi, parfois, râler, ça peut être utile. Ça rappelle aux gens que, oui, je suis là, et que si vous faites quelque chose que je n'aime pas, je vais râler. C'est mieux que d'être silencieux et stoïque, je pense.
Ne râlez pas contre les propos de Stephen Clark. Il a trop de charme. Son dernier livre est un livre-jeu. Il est sorti au printemps dernier et il s'appelle « Le trésor de l'entente cordiale ». Ça ne s'invente pas. Ghislaine Dehaene est une scientifique que nous connaissons bien aussi au Petit Bateau. Elle est directrice de recherche au CNRS et directrice de l'équipe de neuroimagerie du développement à Neurospin.
Bonjour, je m'appelle Bettina, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi on retient moins bien les leçons que l'on apprend à l'école que les histoires que l'on lit. Merci, au revoir.
Bonsoir Bettina, a-t-elle raison à votre avis Ghislaine Dehaene ?
Ça va dépendre de la passion du professeur. Si vous avez un professeur qui est capable de vous enthousiasmer pour un sujet, je pense que vous le retenez aussi facilement que les histoires que vous lisez. Ce qui se passe, et ce qu'on oublie souvent, c'est que pour apprendre, il faut aussi être affectivement, positivement engagé. Donc l'histoire, évidemment, elle est faite pour ça, elle est créée pour ça. Vous avez un peu aussi la même chose avec les jeux vidéo, c'est pour ça aussi qu'ils créent une addiction, parce que le but est de vous emmener d'un point A à un point B. Et normalement, une leçon bien faite à l'école doit faire la même chose, c'est-à-dire on vous explique d'abord pourquoi vous devez apprendre ceci ou cela, et on vous emmène de façon progressive et avec enthousiasme de ce point A à ce point B.
Donc en fait, on retient quelque chose quand on y a mis ou quand on l'a reçu, je ne sais pas, c'est un peu l'œuf et la poule, mais de l'émotion.
De l'émotion.
Quand on a vibré.
Et je dirais pas seulement ça, mais aussi quand on a été surpris. C'est-à-dire qu'un bon enseignement vous amène à prédire ce qui va se passer. Et puis, tout d'un coup, tiens, c'est pas tout à fait ce que vous aviez prédit. Il y a un décalage entre votre prédiction et ce qui s'est passé. Vous êtes surpris. Et on a vu d'abord chez les bébés, puisque moi j'étudie essentiellement les bébés, tout de suite ça vous interpelle. Et vous allez essayer de comprendre. Et ça, en soi, c'est une récompense pour votre cerveau. Vos circuits dopaminergiques, qui sont les circuits de la récompense, se mettent à travailler quand vous êtes surpris et que vous essayez de comprendre.
Donc en fait, vous êtes en train de nous dire, docteur Ghislaine Dehaene, que la surprise, c'est du plaisir.
La surprise, c'est du plaisir. Et c'est ça qui vous plaît aussi chez le magicien. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous aviez des attentes tout à fait naturelles sur le monde et l'objet disparaît, par exemple. Comment est-ce possible? Alors qu'on sait que les objets sont très permanents. Et donc c'est ça que doit susciter le professeur. C'est cette surprise qui va emmener les enfants vers une interrogation et un plaisir.
La surprise, c'est pas très loin de l'émerveillement, mais de la peur aussi.
Je dirais pas ça. C'est plus une interrogation. Par exemple, notre collègue au MIT, au musée du MIT.
Qu'est-ce que c'est le MIT?
C'est le Massachusetts Institute of Technology. C'est là où sont les meilleurs ingénieurs du monde, où ils essayent d'inventer des choses extraordinaires, comme les robots qui font des choses extraordinaires. Vous pouvez aller voir sur YouTube.
Oui, avec plaisir.
Et donc, elle a essayé de voir si effectivement, quand on présentait quelque chose de surprenant à des jeunes enfants, des 2-3 ans qui visitaient le musée, ils retenaient plus le nom de ces objets. Donc c'était des nouveaux objets qui avaient des comportements surprenants. Par exemple, ils pouvaient passer à travers un mur. Et puis à la sortie du musée, on leur donnait le nom de l'objet et on leur demandait d'aller le chercher. Et quand l'objet avait eu un comportement surprenant, les enfants se souvenaient beaucoup mieux du nom de cet objet.
En fait, Ghislaine Dehaene, c'est très subtil cette histoire d'émerveillement, de découverte. Il faut que ce soit agréable, dérangeant, mais pas trop.
On ne peut pas apprendre quelque chose qui est trop loin de notre zone de confort. Mais il ne faut pas que ça soit trop dans la zone de confort, sinon ça devient ennuyeux. Donc en fait, il y a un espèce de paramétrage que doit trouver le professeur qui est d'être un peu en dehors, mais pas trop. Parce que si c'est trop en dehors,
c'est loin.
C'est trop loin, on ne va pas pouvoir apprendre.
Summers still remain. How many days are lost in vain?
Morissette et John Mellencamp et Bruce Springsteen, choisis par Jean-Baptiste Audibert pour Les Petits Bateaux, extraits de la playlist Les Petits Bateaux. Vous connaissez le principe, des enfants posent des questions sur notre répondeur, des enfants petits et grands. Notre répondeur, son numéro c'est le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Julie, je voulais savoir qu'est-ce qui est le plus dur en prison. Merci, au revoir.
Elle est jolie ta question, Julie. Nous la proposons à un avocat, puisque les avocats peuvent rentrer dans les prisons. Maître Hervé Temim, vous avez écrit « Secret défense » édité chez Gallimard. Là, ce que vous allez dire n'est pas un secret.
Non, je crois que la prison, c'est d'ailleurs son but, la prison c'est très dur. C'est très dur d'être en prison. Moi par exemple... J'ai un caractère, peut-être que tu as le même, Julie, je rigole, je plaisante de tout, même des pires choses, mais pas de la prison. Je crois que ça me rendrait terriblement fou, malheureux d'être en prison. Ce qui est le plus dur en prison, c'est la privation de liberté. Et je crois qu'on se rend assez compte en ce moment à quel point la liberté nous est précieuse. Alors imagine que là, tu sois entre quatre murs, dans des conditions d'enfermement que tu n'as pas choisies, qui sont parfois dures à vivre sur un plan matériel et sur un plan moral. Alors bien sûr, les gens qui sont en prison, pour la plupart, méritent une sanction ou méritent d'être privés de liberté, mais... Il faut ajouter à la simple privation de liberté que les conditions matérielles d'incarcération sont vraiment terribles. D'abord, il y a beaucoup trop de gens en prison par rapport à ce que les prisons peuvent supporter. Il y a à peu près un quart des personnes qui sont en prison qui ne devraient pas y être parce que les prisons ne peuvent pas supporter autant de monde en prison. Et puis, il y a parfois des conditions de vétusté, des conditions de promiscuité, de violence... qui sont assez inimaginables. Il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas. Il y a par exemple les bruits. La prison est un lieu où il n'y a jamais de silence. Il y a des prisons où toute la nuit, on entend des bruits de gens qui discutent entre eux d'une fenêtre à l'autre. Il y a des bruits de porte, il y a les bips, il y a des cris dont on ne connaît pas forcément l'origine. Il y a la télé du voisin qui hurle à tue-tête jusqu'au bout de la nuit. Ce sont des toutes petites choses, c'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est la privation de liberté, c'est le manque de dignité, c'est l'insalubrité, et puis je rajouterai quelque chose d'autre. Il y a un poids moral dans la prison. Ce qui est dur aussi dans la prison, c'est le regard des autres, quand on en sortira. Et moi, j'ai connu des gens à qui j'ai annoncé qu'ils sortaient de prison et qui étaient terrorisés. Parce qu'ils savaient que la liberté retrouvée, en fait, elle serait une liberté fictive, factice. Ça a un poids social, moral extrêmement lourd, la prison. Donc, voilà pourquoi je considère qu'au moins, quand on est en prison, eh bien, on doit avoir le droit d'être privé de liberté, mais que privé de liberté. C'est-à-dire que la prison républicaine, comme l'écrivait Robert Badinter, c'est une prison qui doit témoigner un minimum de considération à l'égard des personnes qui sont en détention sur ces terrains-là. Et en fait, ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse à ce sujet, et puis ce sujet, en fait, même quand on s'y intéresse, il y a toute une partie de la population qui trouve ça assez scandaleux de se préoccuper du sort des détenus. On a du mal à considérer que le sort des détenus pourrait être meilleur que le sort des personnes les plus défavorisées en liberté. Et le niveau de pauvreté ou d'indignité dans laquelle trop de nos concitoyens et nos concitoyennes vivent en liberté est tel que on hésite, je crois, sur un plan politique, à prendre à bras le corps le problème des prisons et à s'apitoyer, je mets le verbe entre guillemets, sur le sort des détenus. Mais je vous promets que je pense qu'on peut apprécier la qualité d'une société démocratique à la manière dont elle traite les plus faibles. Et parmi les plus faibles, il y a aussi les détenus.
Le dernier livre de Maître Hervé Temim, avocat, s'appelle « Secret défense » et il est édité chez Gallimard. Allez, passons à quelque chose de plus gai pour finir. Nous connaissons tous Mozart. Nous savons qu'à 5 ans, il composait son premier menuet. Son professeur de violon de père était bien placé pour apprécier à sa juste valeur le talent de son fils. Il l'a fait travailler et voyager pour exploiter ses dons. Devenu jeune homme, Mozart a été moins discipliné que son père. Il a osé envoyer bouler leur employeur, en quelque sorte. Le père, affolé, impose à son fils de présenter des excuses. Mais Mozart a passé l'âge qu'on lui impose quoi que ce soit. Il s'envole. Comment va-t-il vivre alors? La suite, vous la trouverez dans le journal de Mozart de Marianne Wurch et Eléa Bird, édité chez Belin Jeunesse. J'ai adoré ce livre. Particularité de l'ouvrage, vous pourrez, grâce à une appli gratuite, écouter des extraits des plus belles œuvres de Mozart. Les quelques mesures que vous allez entendre sont extraites de la sonate numéro 11. Elles ne viennent pas de cette appli, elles sont interprétées par le pianiste Nelson Frère, qui vient de mourir. Et voilà, c'était le pianiste Nelson Frère, donc pour illustrer ce livre édité chez Belin Jeunesse, qui s'appelle tout simplement « Le journal de Mozart ». Podcastez mes amis, podcastez ces petits bateaux, réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Petit bateau, réalisation Marjorie Devoucou, mixage Florian Dorimini, présentation Noël Bréham. Nous espérons bien vous retrouver dimanche prochain à partir de 19h30. Je rappelle que cette émission répond aux questions d'enfants, petits et grands. C'est nous qui trouvons des spécialistes pour répondre à vos questions parfois drôlement compliquées.